entre les bouchemins et aux chasseurs orientales. J'ai réfuté totalement cette
idée. Moi, c'est une de vos conversations au personnage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de maîtrise des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à ce numéro de Parole aux auditeurs. C'est demain que se tiendra le test national de fin d'études primaires et la réussite à ce test permet aux élèves de l'école primaire d'accéder au niveau secondaire. Comment cette école se prépare-t-elle dans votre milieu? Voilà la question qui va lancer notre émission. Et nous avons invité pour vous M. Fabien Bouekitelamu, le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à Kinshasa. Christine Poussou, Nicole Gatka et Paul Badianyama sont à la réalisation de cette émission. Marie-Chantal Lumba vous la présente.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Vous voulez témoigner, donner votre point de vue, votre avis, il suffit de composer le 081-890-6315. Vous pouvez également poster votre avis sur la page Facebook de Parole aux auditeurs, bien sûr la page qui porte le logo de Radio Okapi. Et notre invité est déjà en ligne. Bonjour, Monsieur Bouekitelamu.
Bonjour, madame.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous allons échanger avec les auditeurs, avoir plus d'informations et savoir aussi comment ça se passe dans leur province, dans le milieu où ils vivent, concernant les préparatifs, afin que les élèves finalistes du primaire puissent passer ce test qui est assez important pour eux, parce que c'est comme l'examen d'État au niveau primaire. Mais dites-nous, selon les statistiques, vous attendez combien d'enfants pour cette année scolaire 2011-2012?
En tout cas, pour la ville-province de Kinshasa, nous attendons plus de 100 000 et pour toute la République, c'est plus d'un million d'élèves.
Et dites-nous, c'est vrai que ça ne fait pas aussi longtemps que le TDRCEP a été installé parce qu'à une certaine époque, il n'y avait pas, ça n'existait pas et on a pu réinstaurer ces tests-là. Et dites-nous pourquoi.
Merci beaucoup, madame. Le TDRCEP a pour objectif d'abord de certifier la fin du cycle de l'enseignement primaire, mais c'est tel que c'est stipulé dans l'article 3 de l'arrêté du 11 mai 2004 qui modifie l'arrêté du 30 mai 1966, plutôt non en 6, portant institution d'un test national de fin d'études primaires. Cette certification implique de la part de l'État congolais la reconnaissance sociale, n'est-ce pas, des capacités et des aptitudes acquises par tout enfant ayant suivi le programme national du primaire, qui se résume en fait en trois axes. L'enfant doit être capable de lire, d'écrire, de calculer et de comprendre son environnement. Donc, avec ces tests, nous déterminons les compétences acquises par l'enfant, en lecture, en écriture, en calcul et en connaissance de son environnement.
Et ça, c'est, c'est le premier objectif de ce test. Est-ce que ce test aussi permet d'orienter l'enfant?
Oui, c'est-à-dire, en dépit du fait que ça soit une évaluation sommative, ce test a une finalité formative ou sommative. Donc, les finalités servent à un ou plusieurs buts, notamment pour les enseignants, les parents et les élèves eux-mêmes. Pour l'école, envie d'aider l'enfant par rapport aux apprentissages. Et aussi, soutenir l'enfant dans son orientation scolaire future.
Et cela se sera lié au point qu'il va pouvoir recevoir ou bien qu'il pourra avoir au cours de cet examen. Est-ce qu'il y a des catégories? Est-ce qu'on peut dire que si un enfant a par exemple 50% jusqu'à 60%, cet enfant est prédisposé par exemple pour les études peut-être sociales? Est-ce qu'il y a, on peut catégoriser les enfants ainsi à partir de ce test?
Catégoriser les enfants, non. Les enfants ayant été suivis durant tout un cycle, n'est-ce pas? Ce test nous permet, un, de vérifier le niveau d'acquisition de capacité de chaque élève. Alors, la forme actuelle du PENAFEP, n'est-ce pas? Nous permet, un, dès lors que l'enfant a étudié normalement et a obtenu des points scolaires qui peuvent le permettre d'accéder au niveau secondaire, en additionnant avec le point PENAFEP, nous avons une moyenne qui peut nous permettre de décider si l'enfant peut être certifié ou non. Alors, il y a aussi, hein, par rapport au PENAFEP, l'aspect d'orientation. Cet aspect d'orientation déclenche dans l'enfant les aspirations vers les filières d'études de son goût, de ses capacités. Hein, et on produit plus par rapport même au PENAFEP les élites avec ambition. Les élites avec ambition. Donc, le PENAFEP, c'est notre miroir, c'est un instrument d'évaluation pour nous.
Restez avec nous, nous allons écouter les auditeurs, ceux qui se sont déjà inscrits, qui vont nous dire comment les élèves se préparent pour passer demain ce test. Et puis, bien sûr, nous allons revenir à vous pour que vous puissiez nous donner plus d'éclaircissement sur les conditions pour pouvoir être admis à ce test. Sengi qui se trouve à Kinshasa, vous allez intervenir dans quelques instants, et Mumbere de Bukavu, ainsi que tous les autres qui sont nombreux à pouvoir attendre pour pouvoir donner leur point de vue sur la question.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Sengi.
Et bonjour Marie-Chantal, bonjour Radio Capi, bonjour par aux auditeurs.
Peut-être que vous avez un frère, une petite sœur, un petit frère, un cousin, ou même peut-être votre enfant qui se prépare pour le test de demain. Dites-nous, comment est-ce qu'il se prépare, même l'enfant de votre voisin?
Ok, bien sûr, moi, un enfant pas encore, mais ça viendra, mais j'ai un neveu qui doit passer demain ce test-là, qui se prépare néanmoins bien à partir de leur école aussi, hein, de cours qu'on a organisés de chaque fois les après-midi. Donc je crois qu'il est prêt pour apporter ses effets. Mais ce que je voulais décrire en général, c'est que nous remarquons que dans notre pays, chaque jour on permet que le niveau de l'enseignement baisse. Et on accuse, nous enseignants, on accuse les professeurs au niveau de l'université partout, alors que le grand travail doit être abattu à la base, c'est-à-dire déjà à partir de l'école primaire. Pourquoi? Parce que nous constatons que dans beaucoup d'écoles, écoles primaires, beaucoup d'établissements, passent dans les ministères là-bas pour corrompre afin que leur école puisse avoir toujours 100%. Et on écrit même, quand on marque, disons, on met le tableau pour récupérer les élèves au niveau des secondaires, on dit qu'elle a fait 100%, 100%, même là où il y a moins d'élèves, même là où on n'a même pas dit 100%, vous avez remarqué que non, on mentionne 100%. Alors, ce sont déjà des sciences qui ne favorisent pas l'amélioration de l'enseignement dans notre pays. Alors, parce que nous remarquons de plus qu'au niveau de l'école secondaire, les enfants ont d'énormes difficultés d'abord d'écrire. Ensuite, la lecture, ça c'est vraiment une lecture saccadée. Vous avez remarqué qu'un élève qui est en 5e ou en 6e de l'humanité, il a des difficultés pour écrire correctement. Et lire encore, ça c'est grave. Alors, tout cela, après on accuse le professeur. Donc voilà le professeur. Non. La correction, c'est déjà depuis l'école maternelle. Alors nous allons demander au ministère de la cinéma primaire et secondaire professionnelle, de situer un peu de l'ordre à ce niveau-là, pour qu'on sache avec cette consulat qui ne favorise pas la cinéma au niveau secondaire. Aussi, proposer un pourcentage conséquent, par exemple, pour un élève qui doit aller à l'école secondaire, il doit avoir au minimum 60%. En descendant de 60%, ça ne va pas, parce qu'on sait qu'un élève au niveau de l'école primaire, son intelligence est encore vraiment vieille. Alors, on ne peut pas tolérer déjà à partir de l'école secondaire, du sixième primaire, quelqu'un qui reste avec 50% et il va au secondaire. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Sinon, c'est seulement échouer et puis passer d'une école à une autre si il échoue dans telle ou telle autre école. Moi, j'ai certaines propositions que je voulais soumettre à la radio Capier et puis au ministère de l'ETSP et revoir ce système de.
Merci, Sengui. Donc, pour vous, il faut plus de vigilance, plus de rigueur dans la correction de ces examens afin de pouvoir relever le niveau qui est assez bas. Notamment, vous avez donné un exemple, il y a certains élèves qui passent au niveau secondaire sans avoir une maîtrise de la lecture ni de l'écriture. Et vous avez proposé si on pouvait instaurer un minimum de points, donc plus de 60% pour accéder aux études secondaires. Merci, Sengui. De Kinshasa. Aboukavou Mumbere, bonjour. Bonjour Mumbere. Mumbere est un peu distrait sur sa ligne. Nous espérons que nous pourrons le récupérer pour qu'il puisse donner son point de vue concernant cette question, le test national de fin d'études primaires. Mumbere, vous êtes avec nous?
Je vous écoute.
Oui, bonjour, vous êtes un peu distrait sur votre ligne, il y avait même un peu de bruit d'ambiance autour de vous, mais c'est ça même ce qui rend magique cette émission, c'est que vous êtes là où vous trouvez et on vous prend comme tel pour que vous donniez votre point de vue. Alors dites-nous, comment on se prépare en fait ce test à Bukavu?
Oui, beaucoup, ça se passe généralement bien, les préparatifs effectifs vraiment bien, sauf que pour nous les parents, il y a les problèmes de frais scolaires, et il y a certaines écoles qui commencent à rentrer nos enfants pour autour de certains frais que nous devons payer. Malheureusement, les fonds aussi fait défaut, c'est ça le problème qui rencontre aujourd'hui nos élèves.
Donc le renvoi des élèves qui n'ont pas encore plus régularisé avec les frais scolaires, et c'est assez pertinent, parce que se préparer à une épreuve pareille, il faut que psychologiquement l'enfant soit prêt. Mumbere, vous avez autre chose à ajouter?
Oui, j'ai d'autres à ajouter, surtout à notre gouvernement. Vous voyez, nous travaillons pour les cas. Par exemple, moi, je suis infirmier quelque part, mais. Vous voyez, les salaires que je touche avec les loyers, l'alimentation, les cautions, et puis le fait scolaire, les écoles ne peuvent pas connaître tout ce qui se passe là. Alors, on ne sait pas à qui on peut aller demander secours. Alors, est-ce que le gouvernement prend ses responsabilités à ce point, maman?
Oui, plus de compréhension auprès des autorités scolaires, mais quand même, on verrait, vous savez très bien, il y a ce comité des parents qui travaille souvent en synergie avec les autorités scolaires. Est-ce que vous avez déjà apporté ces revendications au sein de ce comité des parents pour qu'ils puissent, au cours des réunions, qui sont d'ailleurs souvent quotidiennes, trouver une solution face à cette situation?
Nous faisons toujours des réunions avec les comités des parents et les parents se rassemblent et on essaie de discuter à propos de ces problèmes-là. Mais la solution à ces problèmes-là, c'est toujours de l'argent. Même si on fait des réunions, c'est comme quelqu'un qui est malade, lui indiquer la maladie à laquelle il souffre, c'est bon, oui, bien sûr, mais il faut qu'il se soigne et qu'il puisse guérir. Alors on peut nous parler à propos des problèmes qui s'effectuent et qui nous racontent, mais si l'argent n'est pas vraiment disponible, ça ne donne pas toujours satisfaction.
C'est difficile. Merci, Mumbere de Bukavu, pour votre témoignage. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, si vous voulez donner votre point de vue, composez-le 081 890 63 15, 081 890 6315pa@radiocapi.net ou encore écrire sur la page Facebook, poster votre point de vue sur la page Facebook dénommée Parole aux auditeurs. Et nous avons invité pour vous Monsieur Fabien Bouetoutelami, aussi directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à Kinshasa. C'est le représentant même du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Comme lui, il était empêché, il ne pouvait pas venir en ce moment. Et il est là pour répondre à vos préoccupations. Le temps d'écouter Malunga de Bandundu, puis nous allons redonner la parole à notre invité. Bonjour Malunga.
Oui, bonjour Marie Chantal.
Nous vous écoutons, Malunga.
Ok, merci. Je tiens d'abord à féliciter le ministère de l'EPC de pouvoir encadrer cet enseignement. Bon, moi, je connais qu'à mon époque, c'était examen d'admission. Mais aujourd'hui, c'est une affaire. Mais ce que je vois ici sur le terrain, en tout cas aujourd'hui, le finaliste de l'école primaire, en tout cas, forme la beauté de la vie. Il a ceci commence à se changer, de nouveaux uniformes, de nouveaux tenues, tout ça. Mais du point de vue enseignement, c'est ce que je veux dire, le programme qui était programmé, est-ce que je me demande, puisque j'ai ma fille, qui est en sixième, est-ce que le programme était terminé? Puisque si on a initié le Bego, les finalistes ont commencé à partir avant midi et après-midi, jusqu'à 16h. Est-ce que le programme était terminé? Est-ce que aussi, lorsque l'examen sera dans les actions d'être effectuées, les élèves seront eux seuls dans les items pour répondre des questions, puisque nous connaissons déjà l'habitude de notre pays. Même les élèves finalistes de l'école secondaire, en réalité, madame, ce ne sont pas eux-mêmes qui font l'examen d'état encore. Je dis ça en réalité. Est-ce que aussi les finalistes de 6e primaire seront capables eux-mêmes de résoudre le système composé par le texte? Ce que je demande bonne chance à tous les élèves qui vont passer l'examen demain.
Vous êtes revenu sur les préoccupations de Sengi face à la corruption qu'il décrit, ainsi que le fait que les enfants, pour l'instant, ils ont plus le paraître, avoir des nouveaux habits, c'est ça qui est l'important pour eux, et se poser des questions, est-ce que vraiment ils ont pu terminer le programme, parce que il faudrait bien se rappeler que pendant les élections présidentielles et législatives, nous avons connu quelques perturbations dans le calendrier scolaire, et vous posez des questions. C'est vrai qu'on a pu organiser dans certaines écoles de bon. Et voilà, donc notre invité pourra répondre bien sûr à cette préoccupation, comment lutter contre la corruption, est-ce qu'il faut toujours faire attention au paraître, voilà autant de préoccupations. Nous allons écouter Jean de Kananga, vous allez nous excuser M. Fabien Bouetoutelami, le temps d'écouter Jean, et puis nous allons vous accorder la parole. Bonjour Jean.
Oui, bonjour madame.
Nous vous écoutons Jean.
Oui, j'ai plutôt une question à poser à l'invité. J'aimerais savoir s'il y a une tranche d'âge pour les enfants qui vont faire le PNACEP. Parce que j'ai suivi dans une émission sur Radio Capri, ONG partenaire, une femme qui était interdite à partir de l'EF dire qu'il y avait un centre de rattrapage scolaire pour les jeunes femmes. Et elle avait dit que les femmes sont en train d'étudier et vont faire aussi le PNACEP l'année prochaine. Et cette femme-là a déjà plus de 20 ans et quelque chose comme ça. Donc, il y a une tranche d'âge où bien c'est permis à tout le monde de faire le PNACEP.
Ils sont pour avoir des autodidactes au test. Merci Jean de Kananga.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Monsieur Boitouté-Lagneau. Avant de pouvoir entrer dans toutes ces préoccupations des auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conditions pour pouvoir passer ce test?
Bon, pour présenter les tests de fin d'études primaires, n'est-ce pas, il faut être finaliste de 6e année primaire d'abord. C'est quelqu'un qui a suivi un cursus normal du cycle primaire de notre système éducatif. Mais il y a une opportunité qu'on est en train d'offrir à ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre un cursus normal, les adultes, qui peuvent aller dans des centres de rattrapage, n'est-ce pas, qui sont organisés par le ministère des Affaires sociales. Et vous verrez, dans les 100% que nous avons là, par exemple pour toute la République, nous aurons cette session 1 170 771 000 candidats. Il y a quelques candidats qui viennent des centres de rattrapage. À Kinshasa, par exemple, nous avons 131 290 candidats pour l'ensemble. Nous avons plus ou moins 125 qui viennent des centres de rattrapage. Donc ceux-là, au moins, ont suivi une formation, une mise à niveau, village qu'ils ont atteint, et ils peuvent présenter le Sénafed. Mais par rapport aux questions de nos auditeurs...
Là, vous avez même déjà répondu à la question de gens qui se posaient des questions. Est-ce que une question...
Je n'ai pas encore bien répondu parce qu'en fait, il y a des éléments qu'on doit lui ajouter. Je voudrais commencer par notre ami Moumé. C'est Moumé, Sengi
de Kinshasa.
Ah, Sengi de Kinshasa. Oui, Sengi de Kinshasa est en train de décrier la corruption et il est en train de suggérer qu'on puisse avoir les 100% à obtenir en 6e année avant d'être promu en première année secondaire.
60% minimum.
60% minimum, oui, il propose 60% minimum. Par rapport à la corruption, je dois rassurer mon frère Senga que les choses se sont améliorées. Et je pense que Senga a étudié à la même époque avec nous et il a eu, il a vécu avant 2000. Il sait comment notre système éducatif était organisé. Comment est-ce que les enfants étudiaient? Et il peut de lui-même faire la comparaison par rapport à aujourd'hui. Dans quelles conditions nos enfants sont en train d'apprendre et le sourire qui est en train d'être mis au niveau de notre système éducatif pour éradiquer ce fléau.
Oui, et quelles sont les mesures concrètes que vous avez prises pour pouvoir éradiquer la corruption?
La corruption, d'abord, il y a eu la mise en place de la gratuité en partie dans certaines provinces. N'est-ce pas? Dès lors que les enseignants ne sont plus pris en charge par les enseignants, par les parents, et l'État paye régulièrement ces enseignants, et en plus, l'État avait réussi à uniformiser les salaires dans tous les coins de la République, vous allez vous rendre compte que le niveau de vie des enseignants s'était progressivement amélioré, surtout à l'intérieur du pays, où ils ont le même salaire avec nous qui sommes à Kinshasa. Et il y a un certain désintéressement à cette pratique. Les enseignants ne s'occupent presque plus de percevoir des miettes auprès des enfants. Quant au pourcentage de 60%, vous savez, chers amis, nous avons un système éducatif le plus rigoureux possible. Il y a des pays où le passage de l'école primaire vers l'école secondaire est devenu un simple couloir. Il n'y a plus d'examen, il n'y a rien. Un enfant qui finit son cycle, il passe directement en première année secondaire. Donc on instruit même le chef d'établissement secondaire de rendre leurs établissements secondaires attrayants pour accueillir tout enfant qui doit venir du primaire. Alors, nous, au contraire, nous continuons à organiser des sélections. Vous comprenez un peu? Donc, nous sommes très, très efficaces par rapport à d'autres pays. Et nos jeunes, nos enfants qui terminent aujourd'hui en sixième année primaire, mais ils présentent des compétences qui sont approuvées. Hein? Qui sont approuvés à travers le monde.
Mais ce n'est pas l'avis de Sengui qui estime que le niveau est assez bas. Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait pour renforcer sa élève, c'est lire, écrire et calculer.
Bon, nous on appelle ça des spécifiques. Mm-hmm. C'est-à-dire calculer, écrire et connaître son environnement. Mm-hmm. Ce sont les objectifs fondamentaux que nous poursuivons à l'enseignement primaire. Et lorsqu'on les évalue, n'est-ce pas, à la fin de l'année, que ce soit par rapport au niveau de l'école, que ce soit avec les petits enfants de fin d'études primaires, nous dégageons des éléments qui attestent que ces enfants ont réellement maîtrisé les calculs, c'est-à-dire les opérations mathématiques de base. Ces enfants ont maîtrisé la lecture, l'écriture, et ces enfants peuvent s'exprimer pour lire qu'est-ce qui les entoure, qu'est-ce qu'ils ont dans leur milieu respectif. Vous comprenez avec ça?
Oui, c'est votre souci, mais pour ces écoles-là qui facilitent, parce que c'est un phénomène qui est réel, c'est ces écoles qui facilitent des fois les élèves, donc ils sont en train de leur rendre un mauvais service, parce qu'ils vont donner au niveau du marché, au niveau de l'école secondaire, des élèves qui ne sont pas en même de pouvoir montrer ce qu'ils connaissent. Donc à ce moment-là, c'est de la responsabilité de ces chefs d'établissement qui ont en fait une lourde tâche de la société de demain.
Mais voilà pourquoi les TNACEP, lorsque vous êtes en face d'un chef d'établissement qui favorise les enfants, l'État, à son tour, a mis en place un test qui permet d'évaluer si réellement ce que le chef d'établissement a donné à l'enfant, il a mérité. Sinon, l'État avale ce que le chef d'établissement a donné et en fait, le compte n'a pas échoué. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours insisté sur cette évaluation terminale qui est la fête.
Oui,
c'est un instrument dont l'État se sert pour anéantir l'excès de zèle des chefs d'établissement. Et là, nous nous sommes garantis que les élèves qui passent du cycle primaire au cycle secondaire ont maîtrisé les compétences de base.
Oui, et s'il vous plaît, monsieur Boutoutelamion, et à votre avis, quel serait le rôle en fait des parents, des aînés, des tuteurs de ces enfants pour aussi lutter contre la corruption?
Bon, la lutte contre la corruption, c'est une matière transversale. Nous devons toujours faire attention. Nous, on se limite au niveau de nos écoles. Nous prenons des mesures pour décourager cette pratique. Les parents, d'abord, sont impliqués dans la gestion quotidienne des écoles. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPSP, a mis en place ce qu'on appelle des couples parents dans les écoles. C'est-à-dire, dans chaque classe au niveau des écoles, de nos écoles, il y a un couple parrain qui parraine la classe. Permettez-moi cette topologie.
Mmh.
Alors, le couple parrain qui parraine une classe suit de vie à la fin de l'année le comportement des élèves, le comportement de l'enseignant et lutte pour éradiquer ces fléaux, encadre et conseille les élèves. Et nous nous sommes dans un principe, comme dit le ministre, le principe du civisme au quotidien.
Il y a aussi cette question de l'auditeur concernant les préscolaires. À une certaine époque,
oui,
le ministre avait pris une certaine décision, une mesure où on ne devait pas chasser les enfants si on n'a pas payé les préscolaires, surtout pendant la période d'examen. Est-ce que cette décision tient toujours pour le test national de fin d'études primaires?
Là, je voudrais vraiment donner des précisions à notre ami Moumbere. Notre ami Moumbere se plaint du fait qu'il existe dans certains milieux des écoles qui exigeraient des frais scolaires avant qu'un enfant ne puisse présenter le test national de fin d'études primaires. Je pense que non, ça n'existe pas.
C'est gratuit.
Parce que son Excellence, Monsieur le Ministre, a pris une instruction qui interdisait à tous les chefs d'établissement, à tous les conseils de gestion des écoles, de prendre des dispositions pour qu'aucun enfant ne soit exclu de l'école pour non-paiement des frais de scolarité. Vous savez, madame, il y a cela 10 années passées. Il y a au contraire des autorités qui avaient pris comme mesure de garder les enfants pendant les examens et les chasser pendant la période de cours en 97, 98, 99. C'est ce qui s'est passé. Les écoles chassaient pendant la période de cours, mais acceptaient les enfants pendant la période des examens. C'est donc des instructions de certains ministres. Mais depuis l'arrêté du ministre Macaire, je ne suis pas son avocat, je suis collaborateur. Je vous dis sincèrement que cette pratique est prohibée au ministère de l'EPST. Tous les enfants suivent les cours et tous les enfants sont évalués en fin de l'année scolaire.
Mais alors, à quel niveau l'école peut faire pression sur les parents pour qu'ils puissent s'exécuter, parce que quand même c'est de leur devoir.
Oui, mais par rapport aux mécanismes qui ont été mis en place avec le conseil de gestion, avec l'enrichissement du comité des parents d'élèves dans les écoles, parce que les rôles des parents ont été redéfinis par le ministère. Les parents, qui autrefois ne siégeaient que par un représentant au conseil de gestion, on a réussi à étendre jusqu'à 3. Donc les parents sont majoritaires dans tous les conseils de gestion des écoles. Et c'est là où on prend les décisions à l'école. Donc s'il y a un problème qui se pose par rapport aux enfants, dans la majorité des cas, ce sont des décisions des parents. Mais la pression pour les frais ou les pressions pour les frais, il y a des principes qui ont été définis. C'est-à-dire, le parent signe avec les établissements scolaires où étudient leurs enfants un échéancier pour le paiement des frais de scolarité, là où ça existe. Cet échéancier est signé et le parent honore, n'est-ce pas, le rendez-vous qu'il a pris avec le conseil de gestion. Et si le parent n'honore pas, on ne chasse pas l'enfant, on invite cette fois-là les parents. Si le parent répond à l'invitation, est-ce qu'il faut renégocier les échéanciers? L'école accepte. On arrive à exclure l'enfant lorsque le parent ne répond pas à l'invitation de l'école. Là, ils appliquent les règlements d'ordre intérieur qui stipulent le refus d'un parent de répondre à une invitation scolaire implique l'exclusion de l'élève.
Oui, restez avec nous, Ernest de Matadi, on l'a fait attendre un peu longtemps, ainsi que Donatien de Boukavou. J'espère que messieurs, vous êtes encore là pour pouvoir donner vos points de vue concernant, bien sûr, ce test national de fin d'études primaires. Et vous allez nous dire comment cela se prépare dans votre milieu. En ce temps, notre invité, restez en ligne pour pouvoir ensuite réagir face aux avis des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Le matin dit bonjour Ernest.
Bonjour mon Alexandre.
Nous vous écoutons Ernest.
Merci bien. Je voulais dire ceci. Maintenant, en fait, c'est bien. C'est un test d'évaluation du niveau de notre enseignement au niveau élémentaire. Mais ce que l'invité est en train de dire, il y a peut-être des choses. Il est au bureau, il n'est pas sur le terrain.
Mais lorsque
le gouvernement lance sur le terrain autant de manuels, réforme sur réforme, il y a un problème. C'est les enseignants de l'école primaire ou soit de 6e doivent maîtriser l'étude de ces manuels pour mieux les transmettre aux enfants. Et c'est comme ça qu'on constate que si l'année scolaire est établie par les pédagogues, par les psychologues, qui détermine 228 jours, ou 20 jours à l'école primaire, et on ne sait pas terminer ce programme, et on organise des séances de récupération, et à l'inverse, pèse sur les parents, parce que ces séances de récupération qu'on a organisées dans les écoles sont supportées par les parents. Mm-hmm. Alors, de l'autre côté, on parle de gratuité. On parle que les enfants ils réclament, ils ne chassent pas les enfants, ils ne fait pas de pression, alors que l'enseignant est obligé de se reposer l'après-midi. Or, les calendriers scolaires ou l'année scolaire en RDC n'organisent pas des vacations. Donc, cette vacation, cette vacation de récupération est supportée par les parents. Voilà encore d'autres sujets à la charge des parents. De l'autre côté, lorsqu'on prend la situation où je ne vais pas revenir sur la corruption ou tout ce qu'on a envie de dénoncer, on constate que le gouvernement n'a pas pris des mesures terribles dans le sens que dans les écoles privées, par exemple, si on ne fait pas pression aux parents pendant cette période, l'inspection ferme les yeux si l'enfant qui a payé les frais demandés pour la participation aux examens, c'est la fête aux examens, et ça, elle est obligée d'aller au centre, mais à l'école elle est restée. Et les parents, l'objectif des parents, ce n'est même pas la formation, c'est cela. C'est que l'enfant présente ses frais pour les parents, c'est OK passé. C'est comme ça que les parents ne sont pas parfois exigeants sur la formation des enfants. Ils ne refusent de venir au conseil des assemblées de l'école parce que l'enfant est gardé à l'école. Donc voilà, il y a des moments où l'école est en tiraillement, les parents se retrouvent auprès du gouvernement qui les protège, qui les enseignants sont abandonnés. Je suis dans ce secteur de l'enseignement et je sais ce que j'ai dit, que nous n'avons pas des difficultés pour équiper l'argent. Donc, l'intérêt, c'est bon, mais qu'il faut des mécanismes, des programmes nationaux. Si le gouvernement veut qu'on sache que les enfants sont faibles, qu'on actualise, qu'on arrive à officialiser la dépassation, comme ça l'enseignant travaille là-bas et l'après-midi, comme on l'a expliqué à l'époque de notre invité, donc il a été dans cette semaine, il avait une vacation, les après-midi, il a entré à l'école pour faire des études pratiques avec l'enseignant, sous l'encadrement. Donc voilà ma pédagogie.
Donc pour vous, il faudrait reviser ce programme et aussi laisser allusion à l'organisation des séances de rattrapage, en fait, qu'on ne facilite pas les enfants, on arrive à les aider, mais ça retombe encore sur la charge des parents. Et en vous écoutant, Ernest, pour vous, il faudrait encore davantage de rigueur à l'égard des écoles privées, savoir comment ça fonctionne, pour que les deux parties, que ce soit les trois parties, en fait, que ce soit le gouvernement, l'établissement privé, et que les parents et les élèves puissent se retrouver dans cela. Merci beaucoup, Ernest de Matadi. Et je rappelle que à Matadi, vous nous suivez sur la 102.0 FM. Et bien sûr, notre invité pourra réagir à vos propos. Donatien de Bukavu, bonjour.
Bonjour Marie-Sacha.
Nous vous écoutons, Donatien.
Ok, ma préoccupation, je voulais m'adresser à notre gouvernement. Premièrement, lorsque j'avais présenté l'examen de CNHF, on nous donnait des... Donc, des questionnaires qui vont nous faire raisonner. Mais la manière dont on est en train de donner les enfants aujourd'hui, vraiment, les enfants ne se soucient pas de faire les sites.
Mais pourquoi pas que maintenant on doit penser qu'il y a un choix multiple. Alors, c'est maintenant un choix multiple.
On est en train de donner les enfants ce qu'on appelle communément appelé le coaching. Pour ça, donc, les élèves ne se soucient pas de faire les études à la maison parce que les élèves, quand ils rentrent dans la salle des examens, ils savent tout simplement qu'on va cocher des réponses qui vont sortir seulement dans la tête. Donc, les élèves ne raisonnent plus, ils cochent tout simplement pour cocher. Mais, s'ils étaient dans notre époque, on faisait des examens, on fait des examens de contrôle à l'école parce qu'ils avaient fait l'école primaire à l'école catholique. On organisait des examens de contrôle et on amène des enseignants arrière pour nous surveiller. Et on remarque directement les élèves qui sont calés et ceux qui sont capable de passer en première. Mais pour le moment, on est en train de voir un élève de la 6e année qui est en première, c'est aussi qui ne peut pas même s'exprimer en français ou calculer un exercice de fraction. Et ça, c'est donc difficile pour la mathématique
Donc pour vous, il y a une grande part de la chance. Hein. Pour certains, ils peuvent cocher sans réfléchir longtemps et curieusement, ils tombent sur des bonnes réponses et ils passent. Et c'est assez difficile de pouvoir connaître le niveau d'un élève au regard de la méthode actuelle en vous écoutant, Don Ancien.
Ok, c'est ça. Et quand ils arrivent en troisième cours sur la deuxième section, on est en train de s'orienter mal parce que quand disait qu'en pédagogie, c'est le secteur qui est le plus faible, donc parce que c'est la section qu'on calcule par de la mathématique beaucoup, et ça affaiblit beaucoup des élèves. Et ça peut risquer même de, à l'université aussi de ne pas bien aller pour eux.
Merci. N'oublions pas que ce métier d'enseignant, c'est un métier assez noble. Et donc, pour vous, vous estimez qu'il faudrait aussi revoir la méthode de la passation même de ce test. Marcel, Kinshasa, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour la radio Kati, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole.
La fin de vie est basée sur la correction des écoles. Et je voulais dire que si dans notre pays, il y a n'importe quoi, parce que le gouvernement ne prend pas sa disposition. Les écoles privées, il y a des corrections, soit même dans des écoles conventionnelles. Les examens se sont bien préparés pour passer demain, mais nous voyons que à l'éducation de l'école primaire, c'est ça la base de l'éducation. Quelqu'un ne peut pas devenir étudiant sans pouvoir passer à l'école primaire. Mais l'enseignement à l'école primaire a trop baissé, parce que l'enseignement c'est un métier qui est mental. L'enseignant ne peut pas enseigner, à toutefois il le rejoint aussi ce qu'il peut avoir. Donc le problème revient sur notre gouvernement. Le gouvernement néglige beaucoup l'enseignement, qu'il prenne sa charge, parce que lorsqu'il ne prend pas sa charge, cela veut dire qu'il ne veut pas le remplaçant de demain.
Nous connaissons, c'est le rôle du gouvernement de pouvoir contrôler, de pouvoir faire un suivi, et de pouvoir faire appliquer toutes ces lois. Et dites-nous, à votre avis, quel serait le rôle des parents pour que leurs enfants puissent aussi acquérir tout ce savoir dans des bonnes conditions? À votre avis, que peuvent faire les parents dans la lutte contre la corruption pour pouvoir aider les enfants à apprendre mieux et parce qu'en fin de compte, surtout dans les écoles privées, ce sont les parents qui payent.
Effectivement, aussi les parents payent dans les écoles privées. Marie, j'entends voilà que les parents aussi ont beaucoup payé. Les parents n'ont pas de moyens. Lorsque l'enfant étudie à la fin de l'année, l'enfant amène l'échec sur la perte du parent. Alors, les parents peuvent contribuer à annuler la corruption dans des écoles privées en contribuant par d'abord les motivations que les parents donnent. Si les parents donnent des motivations comme il se doit, il n'y aura pas de corruption. Si les parents ne donnent pas la motivation comme il se doit, cela veut dire que les enseignants aussi à leur tour, ils feront tout de corrompre afin de s'en sortir aussi. Parce que si un ouvrier mérite un salaire, on travaille à la fin du mois, on attend quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose, cela veut dire que la corruption ne peut pas terminer. Les parents ont le devoir de donner, parce que quand nous parlons à cette heure ici, il y a d'autres parents qui n'ont pas encore soldé les troisième trimestre, nous sommes presque à la fin. Ils n'ont pas encore donné ni avancé. Voilà maintenant que ce sont nos écoles qui sont victimes à la corruption.
Merci de votre point de vue. Nous allons à Sizi, c'est dans, bien sûr, le sud de Kivu. Bonjour Freddy.
Oui, bonjour madame.
Oui, vous avez la parole Freddy.
Merci beaucoup. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est, je m'étonne, notre gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il pense en fait qu'il puisse rehausser les prix de participation pour ces enfants qui vont présenter leurs examens demain?
Depuis
l'année passée, c'était au moins $3 qu'on demandait à chaque enfant pour participer aux examens de la CEP. Mais aujourd'hui, on vient de nous demander au moins une caution de 5 000 francs congolais. Alors, nous regrettons beaucoup, nous ne savons pas qu'est-ce que notre gouvernement pense Or, nous venons de sortir dans une crise. La population souffre beaucoup, mais on vient de rentrer sur plus. Qu'est-ce que le gouvernement pense pour nous?
Oui, Freddy, restez avec nous. Directement, je donne la parole à notre invité, M. Fabien Boué-Touté-Lamoké, directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ici à Kinshasa. Il représente le ministre empêché. Monsieur Boué-Touté-Lamoké, encore une fois, nous avons un auditeur qui dit qu'on exige des prêts pour la passation de ce test. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, je voudrais d'abord commencer, madame, par M. Ernest de Matadi, qui avait un point de vue important par rapport aux séances de récupération que les écoles organisent parfois. Je voudrais vraiment insister sur un fait qu'au niveau du ministère de l'EPST, toutes les dispositions étaient déjà prises pour récupérer les 12 jours qu'on avait perdus lors de la période des élections, que ce soit avant ou après les élections. Son Excellence le ministre avait organisé une évaluation. Et nous sommes tous mis d'accord qu'il y avait 12 jours non prestés que nous devions récupérer. Et d'ailleurs, Radio Capi, vous nous avez beaucoup aidé pour vulgariser ce calendrier réaménagé. Toutes les écoles étaient déjà censées avoir récupéré ces retards. Et nous sommes revenus à la normale. C'est-à-dire, nous avions atteint réellement les 220 jours prévus pour l'enseignement primaire. S'il y a eu des séances de récupération, moi je pense que en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, nous ne pouvons pas interdire ce que nous appelons des séances de récupération. Parce qu'aujourd'hui, la différenciation pédagogique, c'est une valeur, c'est un bon système dans notre enseignement. Lorsqu'on se rend compte que il y a des matières qui peuvent être révisées avec les enfants les après-midi, c'est bon. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a des enfants qui présentent des faiblesses et qu'on peut le récupérer les après-midi, c'est bon. C'est bon. Mais pour nous, nous avons toujours demandé que cela se fasse gratuitement. Et il existe une instruction du ministre Macaire qui interdit, n'est-ce pas, le paiement des frais pour ce genre de cours. Et là, c'est encore une interpellation à nos amis membres du conseil des jeunes, les parents, et ils doivent tout faire pour prendre part de façon active à la gestion des écoles. Il a aussi proposé la révision des programmes. Et je pense que nous, à l'EPST, nos programmes sont dynamiques à l'enseignement primaire. C'est chaque année, après avoir évalué le système, nous révisons les programmes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le CNAFEP, lorsque nous dégageons des faiblesses, on se met ensemble, s'il faut recruter des experts internationaux, on les fait. Avec l'expertise nationale, on les fait. Nous révisons les programmes. Notre ami Donatien de Bukavu, qui dit qu'il y a des problèmes par rapport à
la méthodologie.
À la méthodologie, parce que les enfants ils terminent, ils ne savent pas s'exprimer en français, et quels sont les moyens que l'État met en place pour pallier à ces insuffisances. Mais je vous assure, madame, je ne pense pas que nous ayons 2 ou 3 pays en Afrique qui aujourd'hui a réussi à couvrir à plus de 100% la desserte somalienne scolaire dans les écoles primaires. Mm-hmm. Vous savez, nous avons distribué au niveau élémentaire et moyen des manuels à tous les élèves avec une quantité supplémentaire. Notre gouvernement a fourni assez d'efforts. Aujourd'hui, tout enfant congolais au primaire dispose d'un livre de calcul et dispose d'un livre de français. Ce qui est vraiment essentiel pour améliorer l'écrit, la lecture et le calcul. Et ça produit déjà des fruits. Ça pourrait déjà des fruits, ils vont le constater même à partir de résultats du thérapeute de cette année scolaire. Notre ami Marcel de Kinshasa est encore revenu sur la corruption. Nous avions déjà parlé de la corruption, mais une chose est vraie. Là, l'État a pris ses dispositions et continue à les prendre, et continuera d'ailleurs à les prendre. Mais c'est ses parents aussi. Vous savez, l'administration, dans notre pays, on appelle ça administration secrète. C'est une administration secrète, la corruption. Elle doit être dénoncée. Elle doit être dénoncée. Vous pensez que nous sommes vraiment assez irresponsables pour que nous disent peut-être un tel enseignant a perçu 1000 francs de mon enfant pour lui donner des points, ou il lui demande de l'aller pour donner des points, et on ne réagit pas. Non. Je pense que là, nous avons toujours tiré les oreilles des parents, et c'est parmi ce qui a motivé notre ministre d'impliquer davantage la gestion de plutôt les parents dans la gestion des écoles. Aujourd'hui, ce sont des parents qui sont presque à plus de 50% impliqués dans la gestion des écoles. Donc la gestion des élites collégiales est, pour nous, en tout cas, on pense que c'est un problème, je sais qu'il va exister vite, mais qui va disparaître. Notre ami de Tizi, qui fait allusion à l'augmentation des frais, il y avait 3 dollars l'année passée, maintenant c'est passé à 5 000 francs congolais. Je voudrais dire à notre ami de Tizi que les frais qui sont perçus en province sont fixés par le gouverneur de province. Ce sont les gouverneurs de province en tenant compte des réalités de leur province, du milieu où ils se trouvent. Parce qu'en fait, au niveau national, où nous sommes, pour moi je sais qu'au niveau national, il n'y a pas de l'argent qui quitte la province vers le niveau national. Tous ces frais qui sont perçus au niveau de province servent pour l'organisation des pour la partition, tout simplement, de ces tests. Alors, vous savez qu'il y a des provinces où les centres sont parfois éloignés du chef-lieu de la province. Et là, il y a un problème de transport qui se pose, il y a un problème de déplacement du thème qui se pose, il y a un problème d'impression du thème qui se pose. Tout a été décentralisé, s'il vous plaît. Alors, là, vous comprendrez avec nous que le prix ne peut être réglé, ne peut être augmenté. Le cas de ce qui me concerne à Kinshasa, les 3500, nous demandons 3500 francs. Mais ça fait 5 ans. Depuis que le ministre Matière est arrivé à Kinshasa, on n'a jamais ajouté un seul franc pour le Ténafet. Parce que nous sommes inscrits dans une réduction, dans un processus plutôt de réduction drastique des charges des parents au niveau des écoles. Donc, je pense que si tel est le cas, ce sont des prévisions budgétaires qui ont été élaborées par les différents comités provinciaux, dont les parents sont acteurs principaux aussi, et c'est eux qui proposent des montants au gouverneur des provinces. Donc, il revient à ces parents-là. Là, ils vont se rendre compte que les demandes ou la demande devient beaucoup plus importante, de revoir les taux à la baisse. Mais là, le ministre nous avait même instruit par rapport aux provinces où il y a des problèmes. Il y a eu des déplacés et ainsi de suite. Il a interdit que les amis puissent percevoir des frais de participation dans ces provinces-là. Dans ces milieux-là, pas des provinces.
Dans des territoires.
Il a demandé à ce que là où il y a des problèmes, là où il y a des mouvements des parents, là où il y a des mouvements des élèves, là où il y a des agitations, que les gestionnaires ne puissent pas percevoir les frais de participation au TENAFET, que les gestionnaires acceptent tous les enfants à ces tests.
Restez avec nous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous avons deux parties de parole aux auditeurs. Après le bulletin d'information, nous aurons encore une dizaine de minutes pour pouvoir échanger sur cette question qui est assez importante parce qu'elle concerne l'éducation à la base, l'éducation de base de nos enfants qui sont l'avenir de demain. Entre-temps, nous allons d'abord écouter Jean qui se trouve à Ouvira. Bonjour Jean. Jean ?
Oui, je peux écouter Radio Matisse.
Oui, Jean, en une minute, dites-nous ce que vous pensez de cet examen, mais surtout comment ce test se prépare à Ouvira.
Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais un peu intervenir à toutes les préoccupations de votre invité. Je suis très d'accord avec tout ce que l'invité a dit, mais je voudrais un peu lui dire qu'il est en train de parler aux Congolais. Apparemment, il se base sur la théorie au lieu de prendre la pratique comme moyen de cheminement. Tout ce qu'il a dit là, sur le plan pratique, ça ne s'applique pas. Bien sûr, le programme au niveau primaire est dynamique. Ça, c'est très vrai. Mais le niveau des enfants est très, très, très bas.
Jean, vous allez intervenir, vous allez continuer votre intervention après le bulletin d'information. Donc, restez en ligne. Soyez calme parce que tout ça après ce place d'information, nous allons commencer par vous pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez, la suite de votre avis. Et aussi, je demande à notre invité de pouvoir suivre avec nous ce flash d'information. Après cela, nous allons revenir pour une seconde partie de Parole aux auditeurs. Nous poursuivons parole aux auditeurs dans sa seconde partie et aujourd'hui nous parlons du test national de fin d'études primaires qui va se tenir demain et nous savons que la réussite à ce test permet aux élèves de l'école primaire d'accéder au niveau secondaire. La question qui a lancé notre émission, comment cette épreuve se prépare-t-elle dans votre milieu? Notre invité est M. Fabien Botoutelamieux, il est directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à Kinshasa. C'est le représentant du ministre empêché. Nous avons gardé Jean en ligne qui est en train de nous dire ce qu'il pense de ce test, mais aussi nous dire comment ce test se prépare à Ouvira. C'est dans le sud Kivu, un territoire qui est tout juste proche du Burundi, voilà, à l'est du pays. Jean, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Oui,
vous pouvez poursuivre, Jean.
Oui, je disais, le test se prépare bien, mais nous ne sentons pas la motivation des enfants. Parce qu'ils savent bien que ça va bien passer, vous voyez. Moi, je voudrais un peu dire quelque chose, hein. Le gouvernement doit analyser le fait d'une manière générale et répondre concrètement aux problèmes de la population. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que les enfants, ils sentent bien que ça ne va rien changer. Ce programme au niveau primaire est dynamique, comme le ministre vient de le dire. Mais le niveau des enfants est très, très, très bas.
Oui, nous savons que notre éducation a connu des problèmes, le niveau est très bas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait un temps pour que les élèves, les enseignants et tout le monde se remettent au pas?
Il faut un temps, bien sûr, mais nous ne voyons pas vraiment l'analyse concrète du gouvernement. Parce qu'il a bien parlé qu'on a étudié des livres, mais nous, on n'a pas vu ça ici à Ouvira. On n'a pas vu ça. Mais ici à Ouvira, il n'y a même pas de bibliothèque. Il faut distribuer les livres à quelle école?
Merci Jean.
Il n'y a pas de livres, il n'y a pas de base.
Merci Jean Ouvira. Pour vous, il faudrait que tout le monde se mette au pas dès à présent. Et vous avez décrit le fait, vous avez constaté qu'à Ouvira, il n'y a pas de livres. Nous allons poser cette question à notre invité, malgré qu'il s'occupe de Kinshasa. Mais il a quand même une vue d'ensemble de la situation dans tout le pays. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour Maman Marie-Chantal, bonjour à l'invité et à tout le monde.
Oui, vous avez la parole.
Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé toutes les interventions de mes collègues auditeurs, des uns dénoncer la corruption, des autres le niveau très bas, etc. etc. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on présente un projet, je crois, on commence sans faire le faiseur de leçon, on commence par le but qui est l'objectif général et on rentre là-dedans. Des objectifs très spécifiques, qui sont en fait des activités à développer. J'ai beaucoup aimé aussi
que notre invité parle des résultats à obtenir, c'est-à-dire que l'enfant arrive à compter, à lire, à écrire, et etc. Mais je n'ai pas aimé qu'on n'ait pas dit à quoi ça conduit.
C'est la
en définitive pour le développement du Congo. Je prends un exemple. Un monsieur de 66 ans qui termine son école primaire, comme il y a la récupération à l'est là-bas. Je félicite tous ceux qui récupèrent les personnes âgées. On va encore l'orienter pour faire quelques études. Je crois au niveau de l'école primaire, on peut déjà le professionnaliser. C'est ce qui manque dans le pays. C'est pourquoi nos enfants qui terminent l'école primaire, quand ils terminent à manger la papaye, il prend le pépin, il le jette. Quand il mange la mangue, il prend le noyau, il le jette. Quand il mange l'avocat, il prend le noyau, il le jette. C'est comme si le cours de botanique, c'était un cours de concentration. Et non un cours de développement à travers le savoir qui est là. C'est pourquoi aussi, nous sommes dans une communauté congolaise qui ne prend pas des initiatives. Peut-être que les rébellions sont aussi des initiatives, hein. Je ne suis pas la promesse de la rébellion. Alors, on ne prend pas d'initiative. Regardez un peu la ville de Kinshasa. Madame Marie Chantal, vous habitez la ville. Elle est sale. Pourquoi? Il n'y a pas d'initiative. Tout le monde parle l'État. Mais l'État commence par l'individu. Je connais un monsieur qui a fini avec distinction en géographie à l'université de Kinshasa. Sa maison a été balayée par l'érosion. C'est paradoxal. Un géographe connaît comment on lutte contre les érosions.
Mm-hmm.
Il n'y a pas deux matins, j'étais à l'université, dans le département de communication. J'ai initié une lettre avant de lancer cette lettre. Je dois connaître qu'est-ce que je peux mettre en gros là-dedans.
Mm-hmm.
J'ai causé avec des communicateurs et communicatrices sur les thèmes qui sont le plus souvent abordés. Tout le monde rentre dans, par exemple, le marketing de telle société brassicole, telle société de téléphonie, etc. Personne ne regarde, par exemple, le pondou, notre pondou ici. Et pourtant, le feuille de manioc pose beaucoup de dégâts sur le plan de la santé. Et j'ai demandé aux femmes qui font la communication là-bas, pour eux, lorsqu'on fait le ruissage de pondou, c'est pour avoir quoi? Tous ou toutes ont dit, c'est pour, en lingala, kolongola solo mauvais, c'est-à-dire enlever l'odeur de l'acridité. Pourtant, ce n'est pas ça.
Mm-hmm.
Elles sont toutes du niveau licence.
Mm-hmm.
Et les hommes disaient, on fait le ruissage du manioc pour rendre le manioc blanc. Vraiment. Voilà comment notre système d'enseignement qui commence au niveau de primaire,
mm-hmm.
par la contemplation,
mm-hmm.
par l'orientation, et non par la connaissance pour le développement.
Et qui doit en fait donner cette impulsion, qui doit donner la vision de la société de demain pour que cela puisse être remodelé dans le programme, les programmes au niveau de l'éducation, que ce soit primaire, secondaire et même universitaire.
Voilà, merci pour la question. C'est là où les parents que nous sommes, les ministres qui sont en train de gérer le système d'enseignement, nous devons nous mettre ensemble pour qu'on fasse le constat et qu'on fasse le programme ensemble.
Mmh.
J'ai beaucoup aimé la proposition du ministre Makeri Mwangu, que je félicite pour sa reconduction ou sa nomination. En 2008, quand il publiait les résultats des examens d'État à Goma, je suis intervenu dans le même temps, dans la même optique. Ok?
Mmh.
Le ministre que je salue m'avait copié au programme national de la révision du programme. Je pensais par mes coordonnées qui sont à la radio CVV et à la radio Capé plutôt, être convoqué par sa modeste personne et rentrer dans la danse. Donc nous voulons une éducation nationale de développement. Il n'y a pas deux matins. Les enfants ont fait le Kuluna à la Gombe. Les écoles se sont bâties. Ça c'est le Kuluna. On va nous dire que ça c'est l'éducation pour le développement.
Mais
on va évaluer quoi demain?
Merci,
on va évaluer
Richard.
Le problème de nos enfants.
Merci, docteur Richard. Donc,
merci,
vous posez des grandes interrogations, la problématique même. Hein. Quelle finalité pour les études? Est-ce que le programme d'études primaires, secondaires, est-ce qu'il sert au développement? quel homme formé pour quelle société. Voilà, autant des questions qui sont vraiment des grands termes. Hein, les étudiants, les universitaires peuvent réfléchir et trouver des solutions après avoir mené des enquêtes dans la société. Et cela, c'est voilà même l'essence même d'un universitaire, c'est de pouvoir se poser des questions en regardant la société évoluer. Merci, docteur Richard. Nous prendrons le dernier auditeur de cette émission. C'est Paul. Il se trouve à Calémy. Bonjour, Paul. Paul, bonjour. Bonjour, Paul. Nous avons perdu Paul de Calémy, malheureusement pour lui. Peut-être demain, il pourra participer à cette émission ou à une autre émission qui sera à nouveau centrée sur l'éducation. Nous revenons à vous, Monsieur Fabien Bétitelamio, notre invité. En conclusion, vous avez suivi tous nos auditeurs, leurs propositions, leurs critiques, leurs suggestions. Et en conclusion, qu'est-ce que vous leur dites?
Bon, nous remercions tous les intervenants. Et je pense que les questions qui ont été soulevées, n'est-ce pas, sont des questions d'actualité chez nous au niveau du ministère. Tous les points qui ont été soulevés font dans la plupart des cas d'un traitement systémique au niveau du ministère et les réponses sont en train d'être données. Uh-huh. Il revient aux amis de faire une petite étude comparative par rapport à là où nous avons été et là où nous sommes. Mais je ne peux pas terminer sans pour autant réconforter notre ami de ouvrir à Jean. Jean qui s'est plaint qu'il n'a pas eu d'Emmanuel dont nous avions fait allusion. Je pense qu'il doit quand même faire confiance en nous. Nous sommes assez responsables. Nous disons que l'Emmanuel, la première année jusqu'en quatrième année primaire, ont été distribués dans toutes les écoles.
Et si c'est facile, vous allez vérifier.
Oui, nous allons vraiment vérifier à Ouvira s'il n'y a pas d'Emmanuel dans les écoles primaires. Mais néanmoins, l'essentiel a été fait. Ils en ont même en plus, en surplus.
Oui. Et peut-être pour les élèves qui nous suivent en ce moment, demain vont passer leur examen. Qu'est-ce que vous leur dites?
En tout cas, nous leur souhaitons une bonne chance. Toutes les dispositions ont été prises pour tous les enfants de Kinshasa et ceux de l'intérieur du pays. Donc, pour l'ensemble des 1 170 771 élèves, nous leur souhaitons une bonne chance et notre souhait majeur serait qu'ils se retrouvent tous l'année prochaine en première année secondaire.
Et c'est sur ce vœu que nous clôturons cette émission. Merci, M. Fabien Bétitelamio, d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions également tous ces auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis avec attention, que ce soit en FM ou connecté sur www.radiocapi.net. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Vous l'avez peut-être entendu sur nos antennes, le gouvernement congolais entend lancer des nouveaux billets de francs congolais à valeur faciale élevée, soit des billets de 1000 francs, 5000 francs et 10 000 francs. La question qui va lancer l'émission de demain, que pensez-vous de cette initiative? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou en pensant votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui a produit cette émission. Nous avons eu aujourd'hui Donna Madimba, Titi Mkoutou et Paul Badianama, bien sûr sous la supervision de Nicole Ngaka. Et je vous invite à rester branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes. À demain.